Chapitre 3. L'ambassadeur, messieurs Boehmer et Bossange, à l'ambassade, le marché. Le lendemain, vers le soir, une chaise de voyage arrivait par la barrière d'enfer, assez poudreuse, assez éclaboussée, pour que nul ne pût distinguer les armoiries. Les quatre chevaux qui l'amenaient brûlaient le pavé. Les postillons, comme on dit, allaient un train de prince. La chaise s'arrêta devant un hôtel d'assez belle apparence dans la rue de la Jussienne. Sur la porte même de cet hôtel, deux hommes attendaient. L'un, d'une mise assez recherchée, pour annoncer la cérémonie, l'autre, dans une sorte de livrée banale, comme en ont eu de tout temps les officiers publics des différentes administrations parisiennes. Autrement dit, ce dernier ressemblait à un Suisse en costume d'apparat. La chaise pénétra dans l'hôtel, dont les portes furent aussitôt fermées au nez de plusieurs curieux. L'homme aux habits de cérémonie s'approcha très respectueusement de la portière et, d'une voix un peu chevrotante, il entama une harangue en langue portugaise. « Qui êtes-vous ? » répondit de l'intérieur une voix brusque, en portugais également, seulement cette voix parlait un excellent portugais. Le chancelier indigne de l'ambassade, Excellence. Fort bien, comme vous parlez mal notre langue, mon cher chancelier. Voyons, où descend-on? Par ici, monseigneur, par ici. Triste réception, dit le seigneur Don Manuel, qui faisait le gros dos en s'appuyant sur son valet de chambre et sur son secrétaire. « Votre Excellence daignera me pardonner, » dit le chancelier, dans son mauvais langage. « Ce n'est qu'à 2 heures aujourd'hui qu'est descendu à l'ambassade le courrier de son Excellence pour annoncer votre arrivée. J'étais absent, monseigneur, absent, pour les affaires de la légation. Aussitôt au retour, j'ai trouvé la lettre de votre Excellence. Je n'ai eu que le temps de faire ouvrir les appartements. On les éclaire. Bon, bon. » Ah, se met une vive joie de voir l'illustre personne de notre nouvel ambassadeur. Chut, ne divulguons rien jusqu'à ce que les ordres nouveaux soient venus de Lisbonne. Veuillez seulement, monsieur, me faire conduire à ma chambre à coucher. Je tombe de fatigue. Vous vous entendrez avec mon secrétaire. Il vous transmettra mes ordres. Le chancelier s'inclina respectueusement devant Beausire, qui rendit un salut affectueux et dit d'un air courtoisement ironique « Parlez français, cher monsieur, cela vous mettra plus à l'aise, et moi aussi. »« Oui, oui, » murmura le chancelier, « je serai plus à l'aise, car je vous avouerai, monsieur le secrétaire, que ma prononciation... »« Je le vois bien, » répliqua Beausire avec aplomb. Je profiterai de cette occasion, monsieur le secrétaire, puisque je trouve en vous un homme si aimable, se hâta de dire le chancelier avec effusion, je profiterai, dis-je, de l'occasion pour vous demander si vous croyez que monsieur de Souza ne m'en voudra pas d'écorcher ainsi le portugais. Pas du tout, pas du tout, si vous parlez le français purement. Moi, dit le chancelier joyeusement, moi, un parisien de la rue Saint-Honoré. « Eh bien, c'est à ravir, » dit Beausire. Comment vous nomme-t-on? Ducorneau, je crois. »« Ducorneau, oui, monsieur le secrétaire. Nom assez heureux, car il a une terminaison espagnole, si l'on veut. Monsieur le secrétaire savait mon nom. C'est bien flatteur pour moi. » « Oui, vous êtes bien noté là-bas, si bien noté que cette bonne réputation nous a empêchés d'amener un chancelier de Lisbonne. » Oh, que de reconnaissance, monsieur le secrétaire, et quelle heureuse chance pour moi que la nomination de monsieur de Souza. Mais monsieur l'ambassadeur sonne, je crois. Courons. On courut en effet. Monsieur l'ambassadeur, grâce aux ailes de son valet de chambre, venait de se déshabiller. Il avait revêtu une magnifique robe de chambre. Un barbier, appelé à la hâte, l'accommodait. Quelques boîtes et nécessaires de voyage, assez riches en apparence, garnissaient les tables et les consoles. Un grand feu flambait dans la cheminée. « Entrez, entrez, monsieur le chancelier, » dit l'ambassadeur qui venait de s'ensevelir dans un immense fauteuil à coussins tout en travers du feu. Monsieur l'ambassadeur ne se fâchera-t-il pas si je lui réponds en français ? Dit le chancelier tout bas à Beau Sire. Non, non, allez toujours. Ducorneau fit son compliment en français. Eh bien, c'est fort commode de parler admirablement le français, monsieur Ducorneau. Il me prend pour un portugais, pensa le chancelier ivre de joie, et il serra la main de Beau Sire. « Ça, dit Manoël, pourra-t-on souper ?»« Certes, oui, votre excellence, oui. Le palais royal est à 2 pas d'ici, et je connais un traiteur excellent qui apportera un bon souper pour votre excellence. »« Comme si c'était pour vous, monsieur de Corneau. »« Oui, monseigneur, et moi, si son excellence le permettait, je prendrais permission d'offrir quelques bouteilles d'un vin du pays, comme votre excellence n'en aurait pas trouvé à Porto même. »« Eh, notre chancelier a donc bonne cave ?» dit Beau Sire gaillardement. « C'est mon seul luxe, répliqua humblement le brave homme, dont pour la première fois, aux bougies, Beau Sire et Dom Manoël purent remarquer les yeux vifs, les grosses joues rondes et le nez fleuri. « Faites comme il vous plaira, monsieur Ducorneau, dit l'ambassadeur, apportez-nous de votre vin et venez souper avec nous. » Ah, pareil honneur, sans étiquette. Aujourd'hui, je suis encore un voyageur. Je ne serai l'ambassadeur que demain. Et puis, nous parlerons affaires. Oh, mais monseigneur permettra que je donne un coup d'œil à ma toilette. Oh, vous êtes superbe, dit Beau Sire. Toilette de réception, non de gala, dit Ducorneau. Oh, demeurez comme vous êtes, monsieur le chancelier, et donnez à nos préparatifs le temps que vous donneriez à prendre l'habit de gala. » Ducorneau, ravi, quitta l'ambassadeur et se mit à courir pour gagner 10 minutes à l'appétit de son excellence. Pendant ce temps, les 3 coquins, enfermés dans la chambre à coucher, passaient en revue le mobilier et les actes de leur nouveau pouvoir. « Couche-t-il à l'hôtel, ce chancelier ?» dit Don Manuel. « Non pas, le drôle a une bonne cave et doit avoir quelque part une jolie femme ou une grisette. C'est un vieux garçon. »« Le Suisse ?»« Ah, il faudra bien s'en débarrasser. Je m'en charge. »« Les autres valets de l'hôtel ?»« Oh, valets de louage que nos associés remplaceront demain. »« Que dit la cuisine ? Que dit l'office ?» Mort, mort. L'ancien ambassadeur ne paraissait jamais à l'hôtel. Il avait sa maison en ville. Que dit la caisse ? Ah, pour la caisse, il faut consulter le chancelier. C'est délicat. Je m'en charge, dit Beau Sire. Nous sommes déjà les meilleurs amis du monde. Chut, le voici. En effet, Ducorneau revenait essoufflé. Il avait prévenu le traiteur de la rue des Bons Enfants, pris dans son cabinet 6 bouteilles d'une mine respectable, et sa figure réjouie annonçait toutes les bonnes dispositions que ces soleils, la nature et la diplomatie savent combiner pour dorer ce que les cyniques appellent la façade humaine. « Votre Excellence, dit-il, ne descendra pas dans la salle à manger ?»« Non pas, non pas, nous mangerons dans la chambre entre nous, près du feu. » Oh, « Monseigneur me ravit de joie, voici le vin. »« Des topazes, dit Beau Sire en élevant un des flacons à la hauteur d'une bougie. « Asseyez-vous, monsieur le chancelier, pendant que mon valet de chambre dressera le couvert. » Ducorneau s'assit. « Quels jours sont arrivées les dernières dépêches ?» dit l'ambassadeur. « La veille du départ de du prédécesseur de votre excellence. »« Bien, la légation est en bon état ?»« Oh, oui, monseigneur. »« Pas de mauvaises affaires d'argent ?»« Pas que je sache. »« Pas de dettes ?»« Oh, dites, s'il y en avait, nous commencerions par payer. »« Mon prédécesseur est un galant gentilhomme pour qui je me porte garant solidaire. » Dieu merci, monseigneur n'en aura pas besoin. Les crédits ont été ordonnancés il y a 3 semaines, et le lendemain même du départ de l'ex-ambassadeur, 100 000 livres arrivaient ici. 100 000 livres ? S'écrièrent à la fois Beau Sire et Don Manuel, effarés de joie. En or, dit le chancelier. En or, répétèrent l'ambassadeur, le secrétaire et jusqu'au valet de chambre. De sorte, dit Beau Sire, en avalant son émotion, que la caisse renferme 100 328 livres, monsieur le secrétaire. C'est peu, dit froidement Don Manoël, mais Sa Majesté, heureusement, a mis des fonds à notre disposition. Je vous l'avais bien dit, mon cher, ajouta-t-il en s'adressant à Beausire, que nous en manquerions à Paris. Hormis ce point que votre Excellence avait pris ses précautions, répliqua respectueusement Beausire. À partir de cette communication importante du chancelier, l'hilarité de l'ambassade ne fit que s'accroître. Un bon souper, composé d'un saumon, d'écrevisses énormes, de viande noire et de crème, n'augmenta pas médiocrement cette verve des seigneurs portugais. Ducorneau, mis à l'aise, mangea comme 10 grands d'Espagne et montra à ses supérieurs comme quoi un Parisien de la rue Saint-Honoré traitait les vins de Porto et le Xérès en vins de brille et tonnerre. Monsieur Ducorneau bénissait encore le ciel de lui avoir envoyé un ambassadeur qui préférait la langue française à la langue portugaise et les vins portugais aux vins de France. Il nageait dans cette délicieuse béatitude que fait au cerveau l'estomac satisfait et reconnaissant, lorsque monsieur de Souza, l'interpellant, lui demanda de s'aller coucher. Ducorneau se leva, et dans une révérence épineuse qui accrocha autant de meubles qu'une branche d'églantier accroche de feuilles dans un taillis, le chancelier gagna la porte de la rue. Beausire et Don Manoël n'avaient pas assez fêté le vin de l'ambassade pour succomber sur le champ au sommeil. D'ailleurs, il fallait que le valet de chambre soupât à son tour après ses maîtres, opération que le commandeur accomplit minutieusement d'après les précédents tracés par monsieur l'ambassadeur et son secrétaire. Tout le plan du lendemain se trouva dressé. Les trois associés poussèrent une reconnaissance dans l'hôtel après s'être assurés que le Suisse dormait. Le lendemain, grâce à l'activité de Ducorneau à jeun, l'ambassade était sortie de sa léthargie. Bureaux, cartons, écritoires, air d'apparat, chevaux piaffant dans la cour indiquaient la vie là où la veille encore on sentait l'atonie et la mort. Le bruit se répandit vite dans le quartier qu'un grand personnage chargé d'affaires était arrivé de Portugal pendant la nuit. Ce bruit, qui devait donner du crédit à nos trois fripons, était pour eux une source de frayeur toujours renaissante. En effet, la police de monsieur de Crone et celle de monsieur de Breteuil avaient de larges oreilles qu'elles se garderaient bien de clore en pareille occurrence. Elles avaient les yeux d'Argus que certainement elles ne fermeraient pas lorsqu'il s'agirait de messieurs les diplomates du Portugal. Mais Don Manoël fit observer à Beausire qu'avec de l'audace, on empêcherait les recherches de la police d'être soupçons avant 8 jours, les soupçons d'être certitudes avant 15 jours, et que par conséquent, avant 10 jours, moyen terme, rien ne gênerait les allures de l'association, laquelle association, pour bien agir, devait avoir terminé ses opérations avant 6 jours. L'aurore venait de poindre quand 2 chaises de louage amenèrent dans l'hôtel la cargaison des 9 drôles destinés à composer le personnel de l'ambassade. Ils furent installés bien vite, ou pour mieux dire, couchés par Beausire. On en mit un à la caisse, l'autre aux archives, un troisième remplaça le Suisse, auquel Ducorneau lui-même donna son congé, sous prétexte qu'il ne savait pas le portugais. L'hôtel se trouva donc peuplé par cette cargaison qui devait en défendre les abords à tout profane. La police est profane au plus haut degré pour ceux qui ont des secrets politiques ou autres. Vers midi, Don Manoël, dit Souza, s'étant habillé galamment, monta dans un carrosse fort propre que Beausire avait loué 500 livres pour un mois en payant 15 jours d'avance. Il partit pour la maison de messieurs Boehmer et Bossange en compagnie de son secrétaire et de son valet de chambre. Le chancelier reçut l'ordre d'expédier sous son couvert, et comme d'habitude, dans l'absence des ambassadeurs, toutes les affaires relatives aux passeports, indemnités et secours, avec attention toutefois de ne donner des espèces ou solder de compte qu'avec l'agrément de monsieur le secrétaire. ces messieurs voulaient garder intacte la somme de 100 000 livres, pivot fondamental de toute l'opération. On apprit à monsieur l'ambassadeur que les joailliers de la couronne demeuraient sur le quai de l'école, où ils firent leur entrée vers 1 heure de relevée. Le valet de chambre frappa modestement à la porte du joaillier, qui, étant fermé par de fortes serrures garnies de gros clous à large tête, comme une porte de prison. L'art avait disposé ces clous de manière à former les dessins plus ou moins agréables. Il était constaté seulement que jamais vrille, scie ou lime n'eût pu mordre un morceau de bois sans se rompre une dent sur un morceau de fer. Un guichet treillissé s'ouvrit et une voix demanda au valet de chambre ce qu'il désirait savoir. « Monsieur l'ambassadeur du Portugal veut parler à messieurs Boehmer et Bossange, » répondit le valet. Une figure apparut bien vite au premier étage, puis un pas précipité se fit entendre dans l'escalier. La porte s'ouvrit. Don Manuel descendit de voiture avec une noble lenteur. Monsieur Beausire était descendu le premier pour offrir le bras à son Excellence. L'homme qui s'avançait avec tant d'empressement au-devant des deux Portugais était monsieur Boehmer lui-même, qui, en entendant s'arrêter la voiture, avait regardé par ses vitres, entendu le mot « ambassadeur » et s'était élancé pour ne pas faire attendre son Excellence. Le joaillier se confondit en excuses pendant que Don Manuel montait l'escalier. Monsieur Beausire remarqua que, derrière eux, une vieille servante, vigoureuse et bien découplée, fermait verrous, serrures, dont il y avait un grand luxe à la porte de la rue. Monsieur Beausire, ayant paru faire ses observations avec une certaine recherche, monsieur Boehmer lui dit « Monsieur, pardonnez, nous sommes si fort exposés dans notre malheureuse profession que nos habitudes renferment toute une précaution quelconque. » Don Manuel était demeuré impassible. Boehmer le vit et lui réitéra à lui-même la phrase qu'avait obtenue de Beausire un sourire agréable. Mais l'ambassadeur n'ayant pas plus sourcillé à la seconde fois qu'à la première, « Pardonnez-moi, monsieur l'ambassadeur, » dit encore Boehmer décontenancé. « Son Excellence ne parle pas français, » dit Beausire, « et ne peut vous entendre, monsieur, mais je vais lui transmettre vos excuses, à moins, souhaita-t-il de dire, que vous-même, monsieur, ne parliez le portugais. »« Non, monsieur, non. Je parlerai donc pour vous. » Et Beausire baragouina quelques mots portugais à Don Manuel qui répondit dans la même langue. « Son Excellence, Monsieur le Comte de Souza, ambassadeur de Sa Majesté très fidèle, accepte gracieusement vos excuses, monsieur, et me charge de vous demander s'il est vrai que vous ayez en votre possession un beau collier de diamants. » Boehmer leva la tête et regarda Beausire en homme qui sait toiser son monde. Beausire soutint le choc en habile diplomate. « Un collier de diamants, » dit lentement Boehmer, « un fort beau collier, celui que vous avez offert à la reine de France, » ajouta Beausire, « et dont Sa Majesté très fidèle a entendu parler. » « Monsieur, » dit Boehmer, « est un officier de monsieur l'ambassadeur, son secrétaire particulier, monsieur. » Don Manuel s'était assis en grand seigneur. Il regardait les peintures des panneaux d'une assez belle pièce qui donnait sur le quai. Un beau soleil éclairait alors la Seine, et les premiers peupliers montraient leurs pousses d'un vert tendre au-dessus des eaux, grosses encore et jaunies par le dégel. Don Manuel passa de l'examen des peintures à celui du paysage. « Monsieur, dit Beausire, il me semble que vous n'avez pas entendu un mot de ce que je vous ai dit. » « Comment cela, monsieur ?» répondit Boehmer, un peu étourdi du ton vif du personnage. « C'est que je vois son Excellence qui s'impatiente, monsieur le joaillier. »« Pardon, monsieur, » dit Boehmer tout rouge, « je ne dois pas montrer le collier sans être assisté de mon associé, monsieur Bossange. »« Eh bien, monsieur, faites venir votre associé. » Don Manuel se rapprocha, et de son air glacial, qui comportait une certaine majesté, il commença en portugais une allocution qui fit plusieurs fois courber sous le respect la tête de Beausire. Après quoi, il tourna le dos et reprit sa contemplation aux vitres. Son Excellence me dit, monsieur, qu'il y a déjà 10 minutes qu'elle attend et qu'elle n'a pas l'habitude d'attendre nulle part, même chez les rois. Bummer s'inclina, prit un cordon de sonnette et l'agita. Une minute après, une autre figure entra dans la chambre, c'était monsieur Bossange, l'associé. Bummer le mit au fait avec deux mots. Bossange donna son coup d'œil aux deux Portugais et finit par demander à Bummer sa clé pour ouvrir le coffre-fort. Il me paraît que les honnêtes gens, pensa Beausire, prennent autant de précautions les uns contre les autres que des voleurs. 10 minutes après, monsieur Bossange revint, portant un écrin dans sa main gauche. Sa main droite était cachée sous son habit. Beausire y vit distinctement le relief de 2 pistolets. « Nous pouvons avoir bonne mine, » dit Don Manuel gravement en portugais, « mais ces marchands nous prennent plutôt pour des filous que pour des ambassadeurs. » Et en prononçant ces mots, il regarda bien les joailliers pour saisir sur leur visage la moindre émotion dans le cas où ils comprendraient le portugais. Rien ne parut, rien qu'un collier de diamants si merveilleusement beau que l'éclat éblouissait. On mit avec confiance cet écrin dans les mains de Don Manuel, qui soudain, avec colère, « Monsieur, dit-il à son secrétaire, dites à ces drôles qu'ils abusent de la permission qu'a un marchand d'être stupide. Ils me montrent du strass quand je leur demande des diamants. Dites-leur que je me plaindrai au ministre de France et qu'au nom de ma reine, je ferai jeter à Bastille les impertinents qui mystifient un ambassadeur de Portugal. » Et disant ces mots, il fit voler, d'un revers de la main, l'écrin sur le comptoir. Beausire n'eut pas besoin de traduire toutes les paroles, la pantomime avait suffi. Bummer et Bossange se confondirent en excuses et dirent qu'en France on montrait des modèles de diamants, des semblants de parures, le tout pour satisfaire les honnêtes gens, mais pour ne pas allécher ou tenter les voleurs. Monsieur de Souza fit un geste énergique et marcha vers la porte aux yeux des marchands inquiets. « Son Excellence me charge de vous dire, poursuivit Beausire, qu'il est fâcheux que des gens qui portent le titre de joaillier de la couronne de France en soient à distinguer un ambassadeur d'avec un gredin et Son Excellence se retire à son hôtel. » Messieurs Bummer et Bossange se firent un signe et s'inclinèrent en protestant de nouveau de tout leur respect. Monsieur de Souza leur faillit marcher sur les pieds et sortit. Les marchands se regardèrent, décidément inquiets et courbés jusqu'à terre. Beausire suivit fièrement son maître. La vieille ouvrit les serrures de la porte. « À l'hôtel de l'ambassade, rue de la Jussienne !» cria Beausire au valet de chambre. Bummer entendit au travers du guichet. « Affaire manquée, » grommela le valet. « Affaire faite, » dit Beausire. « Dans 1 heure, ces croquants seront chez nous. » Le carrosse roula comme s'il eût été enlevé par 8 chevaux. En rentrant à l'hôtel de l'ambassade, ces messieurs trouvèrent Ducorneau qui dînait tranquillement dans son bureau. Beausire le pria de monter chez l'ambassadeur et lui tint ce langage. « Vous comprenez, cher chancelier, qu'un homme tel que monsieur de Souza n'est pas un ambassadeur ordinaire. »« Je m'en suis aperçu, » dit le chancelier. « Son Excellence, » poursuivit Beausire, « veut occuper une place distinguée à Paris, parmi les riches et les gens de goût. C'est vous dire que le séjour de ce vilain hôtel rue de la Jussienne n'est pas supportable pour lui. En conséquence, il s'agirait de trouver une autre résidence particulière pour monsieur de Souza. » « Cela compliquera les relations diplomatiques, » dit le chancelier. « Nous aurons à courir beaucoup pour les signatures. »« Son Excellence vous donnera un carrosse, cher monsieur Ducorneau, » répondit Beausire. Ducorneau faillit s'évanouir de joie. « Un carrosse à moi ? » s'écria-t-il. « Il est fâcheux que vous n'en ayez pas l'habitude, » continua Beausire. « Un chancelier d'ambassade un peu digne doit avoir son carrosse. Mais nous parlerons de ce détail en temps et lieu. Pour le moment, rendons compte à monsieur l'ambassadeur de l'état des affaires étrangères. La caisse, où est-elle »« Là-bas, monsieur, dans l'appartement même de monsieur l'ambassadeur. »« si loin de vous. Mesure de sûreté, monsieur. Les voleurs ont plus de mal à pénétrer au premier qu'au rez-de-chaussée. De voleurs, fit dédaigneusement Beausire, pour une si petite somme. 100 000 livres, fit du Corneau. Peste, on voit bien que monsieur de Souza est riche. Il n'y a pas 100 000 livres dans toutes les caisses de l'ambassade. Voulez-vous que nous vérifions, dit Beausire. J'ai hâte de me rendre à mes affaires. À l'instant, monsieur, à l'instant, dit du Corneau en quittant la chaussée. Vérification faite, les 100 000 livres apparurent en belles espèces, moitié or et moitié argent. Du Corneau offrit sa clé, que Beausire regarda quelque temps pour en admirer les ingénieuses guillochures et les trèfles compliqués. Il en avait habilement pris l'empreinte avec de la cire. Puis il la rendit au chancelier en lui disant « Monsieur du Corneau, elle est mieux dans vos mains que dans les miennes. Passons chez monsieur l'ambassadeur. » On trouva Don Manuel en tête-à-tête avec le chocolat national. Il était fort occupé d'un papier couvert de chiffres. À la vue de son chancelier, « Connaissez-vous le chiffre de l'ancienne correspondance » demanda-t-il. « Non, votre excellence. » « Eh bien, je veux que désormais vous soyez initié, monsieur. Vous me débarrasserez de cette façon d'une foule de détails ennuyeux. À propos, la caisse, demanda-t-il à Beausire. « En parfait état, comme tout ce qui est ressort de monsieur du Corneau, répliqua Beausire. Les 100 000 livres, liquide, monsieur. Bien, asseyez-vous, monsieur du Corneau. Vous allez me donner un renseignement. » « Aux ordres de votre excellence, dit le chancelier radieux. « Voilà le fait. Affaire d'État, monsieur du Corneau. Oh, « J'écoute, monseigneur. » Et le digne chancelier approcha son siège. « Affaire grave dans laquelle j'ai besoin de vos lumières. Connaissez-vous des joailliers un peu honnêtes à Paris ?»« Il y a messieurs Bemer et Bossange, joaillier de la couronne, dit le chancelier. » Précisément, ce sont eux que je ne veux point employer, dit Don Manuel. Je les quitte pour ne jamais le revoir. Ils ont eu le malheur de mécontenter votre excellence. Gravement, monsieur Corneau, gravement. Oh, si je pouvais être un peu moins réservé, si j'osais... Oser, je demanderais en quoi ces gens qui ont de la réputation dans leur métier... Ce sont de véritables juifs, monsieur Corneau, et leurs mauvais procédés leur font perdre comme 1 000 000 ou 2. Oh, s'écria du Corneau avidement. J'étais envoyé par sa majesté très fidèle pour négocier l'achat d'un collier de diamants. Oui, oui, le fameux collier qui avait été commandé par le feu roi pour madame du Barry. Je sais, je sais. « Ah, vous êtes un homme précieux, vous savez tout. Eh bien, j'allais acheter ce collier, mais puisque les choses vont ainsi, je ne l'achèterai pas. Faut-il que je fasse une démarche ?»« Monsieur Corneau, diplomatique, monseigneur, très diplomatique. Ce serait bon si vous connaissiez ce genre-là. Bossange est mon petit cousin à la mode de Bretagne. » Don Manuel et Beausire se regardèrent. Il se fit un silence. Les deux Portugais aiguisaient leurs réflexions. Tout à coup, un des valets ouvrit la porte et annonça « Messieurs Bemer et Bossange !» Don Manuel se leva soudain et d'une voix irritée « Renvoyez ces gens-là » s'écria-t-il. Le valet fit un pas pour obéir. « Non, chassez-les vous-même, monsieur le secrétaire, » reprit l'ambassadeur. « Au nom du ciel, » fit du Corneau suppliant, « laissez-moi exécuter l'ordre de monseigneur, je l'adoucirai, puisque je ne puis l'éluder. »« Faites si vous voulez, » dit négligemment Don Manuel. Beausire se rapprocha de lui au moment où du Corneau sortait avec précipitation. « Ah ça, mais cette affaire est destinée à manquer, » dit Don Manuel. « Non pas, du Corneau va la raccommoder. » L'embrouillera, malheureux. Nous avons parlé portugais seulement chez les joailliers. Vous avez dit que je n'entendais pas un mot de français. Du Corneau va tout gâter. J'y cours. Vous montrez, c'est peut-être dangereux, Beausire. Vous allez voir que non. Laissez-moi plein voir. Par Dieu. Beausire sortit. Ducorneau avait trouvé en bas Beumeur et Bossange, dont la contenance, depuis leur entrée à l'ambassade, était toute modifiée dans le sens de la politesse, sinon dans celui de la confiance. Il comptait peu sur la vue d'un visage de connaissance et se faufilait avec raideur dans les premiers cabinets. En apercevant Ducorneau, Bossage poussa un cri de joyeuse surprise. « Vous ici » dit-il, et il s'approcha pour l'embrasser. « Ah, vous êtes bien aimable, » dit Ducorneau, « et vous me reconnaissez ici, mon cousin le Richard. Est-ce parce que je suis à une ambassade ?»« Ma foi, oui, » dit Bossange, « si nous avons été séparés un peu, pardonnez-le-moi et rendez-moi un service. » « Je venais pour cela. Ah, oh, merci. Vous êtes donc attaché à l'ambassade ?»« Mais oui. Un renseignement. Lequel et sur quoi ?»« Sur l'ambassade même. J'en suis le chancelier. Oh, à merveille. Nous voulons parler à l'ambassadeur. Je viens de sa part. De sa part, et pour nous dire qu'il vous prie de sortir de son hôtel. Et bien vite, messieurs. » Les deux joailliers se regardèrent penauds. « Parce que, dit Ducorneau avec impatience, vous avez été maladroit et malhonnête à ce qu'il paraît. Écoutez-nous donc, c'est inutile, dit tout à coup la voix de Beausire, qui apparut fier et froid au seuil de la chambre. Monsieur Ducorneau, son Excellence vous a dit de congédier ces messieurs, congédiez-les. Monsieur le secrétaire, obéissez, dit Beausire avec dédain. Faites. Et il passa. Le chancelier prit son parent par l'épaule droite, l'associé du parent par l'épaule gauche, et les poussa doucement dehors. « Voilà, dit-il, c'est une affaire manquée. »« Que ces étrangers sont donc susceptibles, mon Dieu !» murmura Beumeur, qui était un Allemand. « Quand on s'appelle Souza et qu'on a 900 000 livres de revenus, mon cher cousin, dit le chancelier, on a le droit d'être ce qu'on veut. »« Ah !» soupira Bossange, « je vous ai bien dit, Beumeur, vous êtes trop raide en affaires. »« répliqua l'entêté allemand, « si nous n'avons pas son argent, il n'aura pas notre collier. » On approchait de la porte de la rue. Ducorneau se mit à rire. « Savez-vous bien ce que c'est qu'un Portugais ?» dit-il dédaigneusement. « Savez-vous ce que c'est qu'un ambassadeur, bourgeois que vous êtes ?»« Non, eh bien, je vais vous le dire. » Un ambassadeur favori d'une reine, M. Potemkin, achetait tous les ans au 1er janvier pour la reine un panier de cerises qui coûtait 100 000 écus. 1 000 livres la cerise. C'est joli, n'est-ce pas ? Eh bien, monsieur de Souza achètera les mines du Brésil pour trouver dans les filons un diamant gros comme sont tous les vôtres. Cela lui coûtera 20 années de son revenu, 20 millions, mais que lui importe, il n'a pas d'enfant, voilà. Et il leur fermait la porte quand Bossange se ravisant. Raccommodez cela, dit-il, et vous aurez. Ici, on est incorruptible, répliqua Ducorneau, et il ferma la porte. Le soir même, l'ambassadeur reçut la lettre suivante. « Monseigneur, un homme qui attend vos ordres et désire vous présenter les respectueuses excuses de vos humbles serviteurs est à la porte de votre hôtel. Sur un signe de votre Excellence, il déposera dans les mains d'un de vos gens le collier qui avait eu le bonheur d'attirer votre attention. Daignez recevoir, Monseigneur, l'assurance du profond respect, etc., etc. Beumeur. » Et Bossange. Eh bien, mais, dit Don Manuel en lisant cette épître, le collier est à nous. Non pas, non pas, dit Beausire, il ne sera à nous que quand nous l'aurons acheté. Achetons-le. Comment ? Votre Excellence ne sait pas le français, c'est convenu. Et tout d'abord, débarrassons-nous de Monsieur le Chancelier. Mais comment ? De la façon la plus simple, il s'agit de lui donner une mission diplomatique importante. Je m'en charge. Vous avez tort, dit Manuel, il sera ici notre caution. Il dira que vous parlez français, comme M. Bossange et moi. Il ne le dira pas, je l'en prierai. Soit qu'il reste. Faites entrer l'homme au diamant. L'homme fut introduit, c'était Beumeur en personne, Beumeur qui fit les plus profondes gentillesses et les excuses les plus soumises. après quoi il offrit les diamants et fit mine de les laisser pour être examinés. Don Manuel le retint. « Assez d'épreuves comme cela, dit Beausire. Vous êtes un marchand défiant, vous devez être honnête. Asseyez-vous ici et causons, puisque monsieur l'ambassadeur vous pardonne. » « Ouf, que l'on a du mal à vendre, soupira Boehmer. Que du mal on se donne pour voler, pensa Beausire. » Alors monsieur l'ambassadeur consentit à examiner le collier en détail. Monsieur Boehmer en montra curieusement chaque pièce et en fit ressortir chaque beauté. Sur l'ensemble de ces pierres, dit Beausire, à qui Don Manuel venait de parler en portugais, monsieur l'ambassadeur ne voit rien à dire, l'ensemble est satisfaisant. Quant aux diamants eux-mêmes, ce n'est pas la même chose. Son Excellence en a compté 10 un peu piqués, un peu tachés. Oh ! Fit Boehmer. Son Excellence, interrompit Beausire, se connaît mieux que vous en diamants. Les nobles portugais jouent avec les diamants au Brésil, comme ici les enfants avec du verre. Don Manuel, en effet, posa le doigt sur plusieurs diamants, l'un après l'autre, et fit remarquer, avec une admirable perspicacité, les défauts imperceptibles que peut-être un connaisseur n'eût pas relevés dans les diamants. « Tel qu'il est, cependant, ce collier, dit Boehmer, un peu surpris de voir un si grand seigneur, aussi fin joaillier, tel qu'il est, ce collier est la plus belle réunion de diamants qu'il y ait en ce moment dans toute l'Europe. » C'est vrai, répliqua Don Manuel, et sur un signe, Beausire ajouta, eh bien, monsieur Boehmer, voici le fait. Sa Majesté, la reine de Portugal, a entendu parler du collier. Elle a chargé son Excellence de négocier l'affaire après avoir vu les diamants. Les diamants conviennent à son Excellence. Combien voulez-vous vendre ce collier? 1 600 000 livres, dit Boehmer. Beausire répéta le chiffre à l'ambassadeur. « C'est 100 000 livres trop chers, répliqua Don Manuel. « Monseigneur, dit le joaillier, on ne peut évaluer les bénéfices au juste sur un objet de cette importance. Il a fallu, pour composer une parure de ce mérite, des recherches et des voyages qui effraieraient si on ne les connaissait comme moi. « 100 000 livres trop chers, repartit le tenace portugais. » Et pour que monseigneur vous dise cela, dit Beausire, il faut que ce soit chez lui une conviction, car son Excellence ne marchande jamais. Boehmer parut un peu ébranlé. Rien ne rassure les marchands soupçonneux comme un acheteur qui marchande. Je ne saurais, dit-il, après un moment d'hésitation, souscrire une diminution qui fait la différence du gain ou de la perte entre mon associé et moi. Don Manuel écouta la traduction de Beausire et se leva. Beausire ferma l'écrin et le remit à Boehmer. « J'en parlerai toujours à monsieur Bossange, dit ce dernier. Votre Excellence y consent-elle? « Qu'est-ce à dire ? » demanda Beausire. Je veux dire que monsieur l'ambassadeur semble avoir offert 1 500 000 livres du collier. »« Oui. Son Excellence maintient-elle son prix ? » ?»« Son Excellence ne recule jamais devant ce qu'elle a dit. » répliqua portugaisement Beausire, mais son Excellence ne rule pas toujours devant l'ennui de marchander ou d'être marchandé. Monsieur le secrétaire, ne concevez-vous pas que je doive causer avec mon associé? Oh, parfaitement, monsieur Boehmer. Parfaitement, répondit en portugais Don Manuel, à qui la phrase de Boehmer était parvenue, mais à moi aussi, une solution prompte est nécessaire. « Eh bien, monseigneur, si mon associé accepte la diminution, moi j'accepte d'avance. »« Bien, le prix est donc dès à présent de 1 500 000 livres. »« Soit. »« Il ne reste plus, dit Boehmer, sauf toutefois la ratification de monsieur Bossange. »« Ah oui, toujours, oui. Il ne reste plus que le mode de paiement. » « Vous n'aurez pas à cet égard la moindre difficulté, dit Beausire. Comment voulez-vous être payé ?»« Mais, dit Boehmer en riant, si le comptant est possible. »« Qu'appelez-vous le comptant ?» fit Beausire froidement. « Oh, je sais bien que nul n'a 1,5 million en espèces à donner !» s'écria Boehmer en soupirant. « Et d'ailleurs, vous en seriez embarrassé vous-même, monsieur Boehmer. » Cependant, monsieur le secrétaire, je ne consentirai jamais à me passer d'argent comptant. C'est trop juste. Il se tourna vers Don Manuel. Combien votre Excellence donnerait-elle comptant à monsieur Boehmer? Cent mille livres, dit le porquier. Cent mille livres, dit Beau Sire à Beumeur, en signant le marché. Mais le reste, dit Beumeur, le temps qu'il faut à une traite de Monseigneur pour aller de Paris à Lisbonne, à moins que vous ne préfériez attendre l'avertissement envoyé de Lisbonne à Paris. Oh, dit Beumeur, nous avons un correspondant à Lisbonne, en lui écrivant. C'est cela, dit Beau Sire, en riant ironiquement. Écrivez-lui, demandez-lui si Monsieur de Souza est solvable et si Sa Majesté la Reine est bonne pour 1 400 000 livres. Monsieur, dit Beumeur confus, acceptez-vous ou préférez-vous d'autres conditions? Celles que Monsieur le Secrétaire a bien voulu me poser en premier lieu me paraissent acceptables. Y aurait-il des termes au paiement? Il y aurait 3 termes, Monsieur Beumeur, chacun de 500 000 livres. Ce serait pour vous l'affaire d'un voyage intéressant, d'un voyage à Lisbonne. Pourquoi pas? Toucher 1,5 million en 3 mois, cela vaut-il qu'on se dérange? Oh, sans doute, mais d'ailleurs, vous voyagerez aux frais de l'ambassade, et moi ou Monsieur le Chancelier, nous vous accompagnerons. Je porterai les diamants. Mais sans nul doute, à moins que vous ne préfériez envoyer d'ici les traites et laisser les diamants aller seuls au Portugal. Je ne sais, je crois que le voyage serait utile et que... C'est aussi mon avis, dit Beau Sire, on signerait ici. Vous recevriez vos 100 000 livres comptant, vous signeriez la vente et vous porteriez vos diamants à Sa Majesté. Quel est votre correspondant? Messieurs Núñez Balboa, frère, Don Manuel leva la tête. Ce sont mes banquiers, dit-il en souriant. Ce sont les banquiers de son excellence, dit Beau Sire, en souriant aussi. Beumeur parut radieux. Son esprit n'avait pas conservé un nuage. Il s'inclina, comme pour remercier et prendre congé. Soudain, une réflexion le ramena. Qu'y a-t-il? Demanda Beau Sire, inquiet. Cette parole donnée, fit Beumeur. Oui, donnée, sauf la ratification de Monsieur Beausange, nous l'avons dit. Sauf un autre cas, ajouta Beumeur. Ah, monsieur, cela est tout délicat, et l'honneur du nom portugais est un sentiment trop puissant pour que Son Excellence ne comprenne pas ma pensée. Que de détours. Au fait, voilà le fait. Le collier a été offert à Sa Majesté la Reine de France, qu'il a refusé. Après, nous ne pouvons, monsieur, laisser sortir de France à tout jamais ce collier sans en prévenir la Reine, et le respect, la loyauté même exige que nous donnions la préférence à Sa Majesté la Reine. C'est juste, dit Don Manuel avec dignité. Je voudrais qu'un marchand portugais tînt le même langage que Monsieur Beumeur. Je suis bien heureux et bien fier de l'assentiment que Son Excellence a daigné m'accorder. Voilà donc les 2 cas prévus. Ratification des conditions par Beausange, 2e et définitif refus de Sa Majesté la Reine de France. Je vous demande pour cela 3 jours. De notre côté, Beau Sire, 100 000 livres comptant, 3 traites de 500 000 livres mises dans vos mains, la boîte de diamants remise à Monsieur le Chancelier de l'ambassade ou à moi, disposée à vous accompagner à Lisbonne chez Monsieur Núñez Balboa frère. Paiement intégral en 3 mois, frais de voyage nuls. Oui, monseigneur, oui, monsieur, dit Beumeur en faisant la révérence. Ah, dit Don Manuel en portugais. « Quoi donc ?» fit Beumeur inquiet à son tour et revenant. « Pour épingle, dit l'ambassadeur, une balle de 1000 pistoles pour mon secrétaire ou pour mon chancelier, pour votre compagnon, enfin, monsieur le joaillier. »« C'est trop juste, monseigneur, murmura Beumeur, et j'avais déjà fait cette dépense dans mon esprit. » Don Manuel congédia le joaillier avec un geste de grand seigneur. Les 2 compères demeurèrent seuls. « Veuillez m'expliquer, dit Don Manuel avec une certaine animation au Sire, quel diable d'idée vous avez eue de ne pas faire remettre ici les diamants. Un voyage au Portugal, vous êtes fou. Ne pouvait-on donner à ces bijoutiers leur argent et prendre leurs diamants en échange ?»« Vous prenez trop au sérieux votre rôle d'ambassadeur, répliqua Beau Sire. Vous n'êtes pas encore tout à fait Monsieur de Souza pour Monsieur de Beumeur. » Allons donc, eût-il traité, si dût-tu des soupçons, tant qu'il vous plaira. Il n'eût pas traité, c'est possible, mais tout homme qui possède 1 500 000 livres se croit au-dessus de tout le roi et de tous les ambassadeurs du monde. Tout homme qui troque 1 500 000 livres contre des morceaux de papier, veut savoir si ces papiers valent quelque chose. Alors vous allez en Portugal, et vous qui ne savez pas le portugais, je vous dis que vous êtes fou. Point du tout, vous irez vous-même. Oh, non pas, s'écria Don Manuel, retourner en Portugal, moi, j'ai de trop fameuses raisons. Non, non. Je vous déclare que Boehmer n'eût jamais donné ses diamants contre papier. Papier signé Sousa. Et quand je dis qu'il se prend pour un Sousa, s'écria Beausire en frappant ses mains. J'aime mieux entendre dire que l'affaire est manquée, répéta Don Manuel. Pas le moins du monde. Venez ici, monsieur le commandeur, dit Beausire au valet de chambre qui apparaissait sur le seuil. Vous savez de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Oui, vous m'écoutiez. Certes. Très bien. Êtes-vous d'avis que j'ai fait une sottise? Je suis d'avis que vous avez 100 000 fois raison. Dites pourquoi. La voici. Monsieur Boehmer n'aurait jamais cessé de faire surveiller l'hôtel de l'ambassade et l'ambassadeur. Eh bien, dit Don Manuel, eh bien, ayant son argent à la main, son argent à ses côtés, Monsieur Boehmer ne conservera aucun soupçon, il partira tranquillement pour le Portugal. Nous n'irons pas jusque-là, monsieur l'ambassadeur, dit le valet de chambre, n'est-ce pas, monsieur le chevalier de Beausire? Allons donc, voilà un garçon d'esprit, dit l'amant d'Oliva. Dites votre plan, répondit Don Manuel assez froid. À 50 lieues de Paris, dit Beausire, ce garçon d'esprit, avec un masque sur le visage, viendra montrer 1 ou 2 pistolets à notre postillon. Il nous volera nos traites, nos diamants, rouera de coups Monsieur Boehmer, et le tour sera fait. Je ne comprenais pas cela, dit le valet de chambre. Je croyais Monsieur Beausire et Monsieur Boehmer s'embarquant à Bayonne pour le Portugal. Très bien. Monsieur Boehmer, comme tous les Allemands, aime la mer et se promène sur le pont. Un jour de roulis, il se penche et tombe, l'écrin censé tomber avec lui. Voilà pourquoi la mer ne garderait-elle pas 1 500 000 livres de diamants, elle qui a bien gardé les galions des Indes. Ah, je comprends, dit le Portugais. Mais c'est heureux, grommela Beausire. Seulement, reprit Don Manuel, pour avoir subtilisé les diamants, on est mis à la Bastille. Pour avoir fait regarder la mer à monsieur le joaillier, on est pendu. Pour avoir volé les diamants, on est pris, dit le commandeur. Pour avoir noyé cet homme, on ne peut être soupçonné 1 minute. Nous verrons d'ailleurs quand nous en serons là, répliqua Beausire. Maintenant, à nos rôles. Faisons aller l'ambassade comme des Portugais modèles, afin qu'on dise de nous, s'ils n'étaient pas de vrais ambassadeurs, ils en avaient la mine. C'est toujours flatteur. Attendons 3 jours.